solidaire entre personnes handicapées et valides. Et cela permet avant tout de développer une vie sociale et un réseau d'amitié. Et c'est une réponse qui est extrêmement forte dans une société postmoderne où une personne sur deux vit seule. Les jeunes qui viennent passer un an comme volontaires service civique découvrent que la différence est source de richesse à partir du moment où on ose cette différence et que notre société est forte de la place qu'on donne aux plus fragiles.
Depuis plus de 20 ans, grâce à vos dons, la Fondation Notre-Dame accompagne les familles dans l'éducation de leurs enfants. Pour continuer, nous avons besoin de vous. Envoyez vos dons à la Fondation Notre-Dame, mains ouvertes, 7 rue Saint-Vincent, 75 018, Paris.
Radio Notre-Dame, Delphine Fraissinet.
10h30 sur Radio Notre-Dame. Bonjour Élodie Chapelle.
Bonjour Delphine Fraissinet. Ça vous fait rire ?
Ouais, la journée
c'est
des...
Bien.
Oui, c'est très bien. La journée des écrivains croyants, c'est demain et vous nous mettez l'eau à la bouche avec vos invités ce matin.
Exactement.
Ecclésia Magazine.
Ecclésia Magazine. Ecclésia Magazine. Élodie Chapelle.
Radio Notre-Dame, partenaire du Salon des écrivains croyants, il a lieu demain après-midi à la mairie du 6e, place Saint-Sulpice. 90 auteurs présents pour rencontrer les lecteurs, lire des extraits de leurs livres et pour ponctuer l'après-midi à 15h30, un grand débat sur la mort sera animé par le philosophe Damien Le Guay, présent avec nous sur notre antenne. Damien Le Guay, bonjour.
Bonjour.
Philosophe, essayiste, critique littéraire, vous êtes maître de conférences à HEC, à l'IRCOM, à Angers, vous enseignez à l'espace éthique de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. J'ai votre dernier livre sous les yeux, La mort en cendres, la crémation aujourd'hui, que faut-il en penser, paru aux éditions du CERF. Ce débat sur la mort, c'est l'occasion pour nous de nous interroger sur la place qu'elle tient dans les livres chez nos auteurs croyants. Qui dit mort dit aussi rappel au réel, à la vie, à ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui ne sera plus, ce qui demeure. Et pour aborder tout ça, avec nous également sur cette antenne, Cécilia Duterre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancière, essayiste. Votre dernier livre, Savannah Dream, bravo pour l'accent, hein, paru aux éditions Albin Michel cette année. Vous vous intéressez à quelque chose de très important, c'est la notion de désir amoureux. Alors certains doivent se dire la crémation d'un côté, de l'autre côté le désir amoureux, mais comment va-t-elle faire pour s'en dépêtrer? Damien Le Guay, vous êtes encore sceptique, hein, mais je crois que...
Pas du tout, mais j'attends l'artiste.
Eh bien c'est parti. Voilà, portrait croisé aujourd'hui du philosophe et de la romancière. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. C'est un extrait des pensées de Pascal, cité dans ce roman, Cécilia Duterre. Pourquoi avez-vous choisi Pascal pour aborder la question de l'adultère ?
Eh bien parce que je voulais parler du divertissement amoureux, du divertissement au sens pascalien, c'est-à-dire au sens de fuite de soi. Et j'ai souhaité mettre en rapport dans ce roman, en fait, deux types d'amour. L'amour construction, l'amour conjugal, l'amour dans la durée, puisque mon héros est quelqu'un qui effectivement est très installé dans une vie conjugale, bourgeoise, confortable, agréable, paisible. Et quand même, après avoir fait un grand écart sur le plan des valeurs, puisqu'il est sociologue, écologiste convaincu, et il va être débauché, figurez-vous, par Coca-Cola. Donc après avoir fait ce grand écart au plan des valeurs, puisqu'il va à Atlanta au siège de Coca-Cola pour exercer, donc contre toutes ses convictions, mais attiré par le prestige du poste hein, et du salaire. Et là, sur place, dans un laps de temps d'un mois où il est en train d'emménager, il va croiser le regard vénéneux d'une femme hein, qui est philosophe,
Maude,
et qui est sous le charme de laquelle il va absolument tomber. Et,
pour ne pas dire dans les griffes de laquelle il va tomber.
Oui, dans les griffes, parce que c'est une manipulatrice hors pair. On va découvrir, alors après, c'est toute l'intrigue du roman, que sa manipulation est même beaucoup plus large qu'une manipulation amoureuse. Hein. C'est un vrai roman avec une vraie intrigue.
Mais, on va pas tout dévoiler. Hein.
Bien sûr que non. Mais voilà, c'était voilà, le prétexte en fait, à mettre en rapport, c'est les deux types d'amour, l'amour construction et l'amour, je dirais, désir irrépressible, fulgurant, qui l'a. Et justement, précisément dans l'immédiateté.
Et ce qui est permanent dans votre livre, hein, le fil rouge, c'est la question du vide, de la solitude existentielle profonde qu'il y a chez ces deux personnages. Damien Le Guay, cette solitude profonde de l'être humain, est-ce que ce n'est pas son rapport aussi à sa vie et à sa mort, en fait, en quelque sorte ?
Je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est, et j'ai bien aimé ce qui a été dit juste avant,
la question du désir. C'est-à-dire qu'on peut dire de l'être humain qu'il est avant tout un être de désir. Désir connaître, désir vivre, désir aller de l'avant, désirer avoir des projets, etc., etc. Et à partir du moment où le désir, effectivement, s'affaiblit, diminue, disparaît, il est effectivement l'individu confronté à l'anomie de lui-même, au désert intérieur qui est le sien. Et il est vrai qu'un individu, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, ce qui permettra de faire le lien entre les deux, un individu aujourd'hui qui est stimulé, comme il l'est, comme nous le sommes tous, par des désirs artificiels, marchands, fallacieux, en permanence.
Éphémères en tout cas, souvent.
Oui, mais surtout qui sont extrêmement artificiels d'une part, et deuxièmement, avoir cette situation où le vrai désir, le vrai appétit de vivre, de connaître, d'aimer, de partager, est une construction ô combien difficile et délicate parce que non entretenue ou non aidée par la société, fait que cet individu qui se retrouve confronté à la mort se retrouve dans une situation d'abandon complet. Et de plus en plus complet, parce que non conforté par les autres, ou peu, ou difficilement, non aidé par la société, parce que les rites disparaissent et que l'individu se retrouve un peu seul, et même non aidé par lui-même, parce que la psychologie moderne, l'idée que l'on se fait de la psychologie moderne, suppose que l'individu, lui, puisse être, pour reprendre des expressions des uns des autres, auto entrepreneur de sa propre vie.
Quand je ne peux plus, je ne suis plus, en quelque sorte.
Oui, mais ça veut dire
que je ne vaux plus d'être.
Oui, mais je ne suis plus aidé. Voilà, je ne suis plus aidé par quoi que ce soit pour m'affronter, pour affronter cette difficulté insurmontable de l'abandon absolu, à la fois de celui qui meurt et à la fois de ceux qui sont autour du mort et qui sont confrontés à cette disparition de l'individu aimé et désirant.
C'est ça. Cécilia Duterre, on va très loin. Hein.
Oui. Moi, je rebondis sur l'idée de vide existentiel dont vous parliez. Donc, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que je cite Pascal d'entrée de jeu, en fait, dans mon roman. C'est tout à fait l'idée que... Alors, je reviens à mon héros, mais ça rejoint la discussion qu'on a. Le vide existentiel, c'est une forme de mort, en fait. C'est une forme de mort, une forme de néant, à laquelle, précisément, ce héros... comme beaucoup d'entre nous, n'a pas envie de se confronter. Et il va aller chercher dans le divertissement amoureux, dans cette relation passionnelle et infiniment dévastatrice en l'occurrence, puisque là j'ai vraiment, moi qui écris sur le désir depuis longtemps, c'est vraiment le versant sombre du désir, là, de l'emprise amoureuse que j'ai voulu mettre en exergue dans ce livre. Et combien il va chercher à être comblé en fait par cette relation et combien... En réalité, loin de le combler, cette femme va venir l'éloigner de lui-même. Elle va, par son regard, le faire exister dans un premier temps. Elle va le valoriser là où il a une insécurité chronique et où il en a besoin. Et pour mieux aller creuser ses failles, pour mieux aller le faire vaciller dans ses fondations et le déconstruire, en fait, complètement. Et le mettre, face à ce vide à la fin du roman. Je ne dévoilerai pas, mais... Oui. Il sera obligé à un moment donné de s'y confronter.
Vous parlez de ce regard qui le fait exister. C'est un regard complètement illusoire parce qu'il est dans la projection de ce qu'il voudrait être alors que ce n'est pas du tout ce qu'il est dans sa nature profonde. Et ça lui permet de fuir, de colmater ce vide profond, ce vide sidéral qu'il y a en lui en quelque sorte.
Exactement.
Et là, on est dans ce rapport à l'illusion en fait.
Tout à fait. Vous êtes vraiment tout à fait au cœur de mon sujet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un double regard qui le fait exister, un regard social, parce que tout d'un coup il a un poste très prestigieux, parce qu'il est quelqu'un. Aux États-Unis, on est quelqu'un aussi quand on gagne beaucoup d'argent, d'ailleurs en France aussi souvent, et donc tout d'un coup il est quelqu'un alors qu'il était moyennement quelqu'un en France, si j'ose dire, sur le plan social. Et puis il devient quelqu'un aux yeux d'une femme qu'il projette comme étant extraordinaire. Elle est philosophe, elle le fait réfléchir, elle fait souffler le chaud et le froid en permanence, et il court après cette valorisation dont il a infiniment besoin, et elle voit tout de suite que c'est exactement, précisément comme ça qu'elle va pouvoir rentrer en lui, en le valorisant pour mieux aller ensuite le fragiliser.
La valorisation, la stimulation, l'excitation, je dirais presque l'exaltation d'une certaine vie qui fait complètement fuir la réalité de la finitude humaine, en quelque sorte, Damien Le Guay.
Oui, c'est-à-dire que... Si vous voulez, il faut toujours distinguer ce qui est difficile aujourd'hui tous les éléments de valorisation sociale ou d'apparence, ce que l'on pourrait ranger sous le nom de la marque, c'est-à-dire ce qui vous marque, ce qui vous démarque, ce qui vous fait reconnaître, ce qui vous donne l'apparence d'une existence sociale qui tient lieu d'existence personnelle. Et puis, autre chose, qui est effectivement ce désir, ce besoin qui est le nôtre, même s'il est caché et même s'il n'est pas valorisé par la société, de nous retrouver confrontés à nous-mêmes, au silence qui est le nôtre, au sens que nous donnons à notre propre vie, à l'idée que nous nous faisons de l'existence qui est la nôtre et que nous sommes susceptibles de pouvoir transmettre. Et ce deuxième sens, pour être dans le registre de la tentatrice, donc de la philosophe tentatrice, c'est bien, surtout aux États-Unis, c'est bien cette idée qu'avait développée Hannah Arendt de l'idée du monde commun. Qu'avons-nous en commun ? Soit nous sommes, dit-elle, une société d'individus séparés les uns des autres, qui ne sommes plus reliés, ce qui est fondamentalement le cas aujourd'hui, par quoi que ce soit entre nous. Soit nous formons, d'une manière ou d'une autre, un monde commun, c'est-à-dire l'idée que nous avons en commun de quelque chose qui nous unit, que nous avons reçu en héritage,
qui nous dépasse, en quelque sorte.
Qui nous dépasse et que nous nous efforçons de transmettre effectivement aux autres. Et donc on peut se demander si nous allons transmettre pour rebondir sur le roman de Cécilia, si nous allons transmettre effectivement cette consommation Coca-Cola à l'infini, Coca-Cola considérant qu'effectivement son principal concurrent ce n'est pas les autres sodas mais c'est l'eau. Donc est-ce qu'on va remplacer le Coca par l'eau en permanence? Donc est-ce qu'on va remplacer...
Vous avez très bien joué le jeu là, Damien Le Guay. Alors, le Coca-Cola par l'eau.
Oui, soit nous allons faire ça, soit nous considérons effectivement que l'eau, pour reprendre toujours cette idée-là, donc ce qui nous est donné, donc ce que nous avons en commun, doit être, dans une forme d'écologie qui est à la fois une écologie vis-à-vis du monde, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de ce que nous avons en commun, qui doit être préservé sur un principe de précaution.
Vous devriez embaucher Damien Le Guay comme vendeur de votre...
Oui, mais j'y sens, je l'écoutant.
C'est signé du clair.
Et peut-être juste un mot sur la... Vous parliez de effectivement être relayés les uns les autres, et c'est très vrai.
Relayés,
bien sûr. Mais justement, peut-être aussi être relié à soi-même par rapport à ses vérités intérieures. Et dans le fond, finalement, ce héros ou d'autres d'ailleurs personnages sur lesquels moi j'ai écrit de façon peut-être plus sérieuse, enfin pas sous forme romanesque, mais sous forme d'essai, comme par exemple Etil Soum, sont vraiment des personnages ou des personnes. Puisqu'elle a existé, bien sûr.
Cette femme juive qui est morte en 1943 à Auschwitz.
Voilà, et qui a laissé un magnifique journal pendant l'occupation hollandaise. Un très, très beau témoignage, alors historique, mais surtout spirituel, singulier et très universel. Peut-être, voilà, cette idée d'être à la quête et de ne pas s'écarter de cette vérité intérieure. Peut-être que nous, croyant, justement, on est précisément... très enclin justement à rester proche de cette vérité propre qui est la nôtre. Et moi, ce qui m'intéresse notamment sur le plan romanesque, c'est de prendre justement des personnages comme ça très lisses qui ont l'air en apparence d'avoir une vie plutôt heureuse, plutôt confortable, et en même temps qui s'écartent ou se sont écartés de leur voie, de leur chemin. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on va loin et quand on se fuit en fait?
Dans les réactions de certains collègues, c'était quoi sur Radio Notre-Dame parler d'un livre où il n'est question que d'une adultère, d'un adultère. Franchement, c'est étonnant et pourtant. Est-il Soum, c'est ça aussi.
Ça m'étonne pas du tout cette.
Je pousse Damien Le Guay. Mais...
Non, l'adultère chez Est-il.
Non, mais je veux dire, il y a des. Non, je veux dire, il y a des trous dans la vie.
Des trous. Pour Est-il Soum, je parle sous contrôle de Cécilia, mais enfin, chez Est-il Soum, c'est plutôt une femme qui se cherche elle-même.
Oui, qui se cherche.
Et donc, qui effectivement expérimente son désir, ça c'est vrai, et qui l'expérimente de façon sexuelle, amoureuse, dans un premier temps, et qui effectivement, après, se rend bien compte que la quintessence du désir, surtout quand elle est en situation d'être confrontée comme elle l'est effectivement au malheur des autres, parce que, qui n'est pas d'abord le sien, mais qui est d'abord celui des autres, c'est effectivement cette confrontation avec le désir du désir, avec la racine du désir, avec ce Dieu qui est au fond du puits et qu'elle cherche désespérément sans jamais le trouver, tout en le trouvant et tout en cherchant à le préserver.
C'est ça, c'est la quête. La quête.
Oui, et alors, je ne suis pas très étonnée en fait qu'on vous ait fait cette réaction, parce que moi aussi, puisque j'écris justement sur la thématique du désir, ouais. Et tout particulièrement du désir amoureux sur le plan romanesque, souvent on m'en fait quelque part la critique, mais par contre sur le fond je ne la comprends pas cette critique, parce que c'est vrai que la question de la tentation, la question du désir, la question du fil sur lequel nos vies sont toujours en équilibre, c'est au cœur même quelque part d'un témoignage de, je pense, d'écrivains croyants, bien d'autres et de très grands auteurs, là, auxquels je ne me comparerais pas, mais comme Mauriac, Bernanos, même Peggy, dans une certaine mesure, on parlait de ces questions. C'est une religion incarnée, le catholicisme, le christianisme est une religion incarnée. Donc, évidemment, la question de l'amour et du désir est au cœur aussi des préoccupations humaines. Mais moi, je ne fais absolument jamais l'apanage de l'adultère. Par exemple, là, dans Savannah Dream, c'est pas du tout, je ne fais pas l'éloge
non,
de l'adultère.
L'exploration
j'explore justement jusqu'où.
Du vide sidéral
voilà,
de chacun.
Qu'est-ce qui se niche derrière la tentation de l'adultère? Peut-être que justement, c'est justement quelque chose de l'ordre de la fuite de soi, de l'ordre du chercher à combler un vide, aussi des failles dues souvent à l'enfance, une insécurité qu'on cherche à réparer, par exemple. Voilà, c'est plutôt. Je ne dirais pas déconstruire l'illusion de la passion, mais en tout cas l'expliquer.
Damien Leguet, vous qui vous intéressez donc à tout ce phénomène, enfin plus qu'un phénomène, c'est une réalité, à cette réalité de la crémation qui augmente de jour en jour, sur cette question voilà, de l'illusion et du rapport de l'homme à la vie, comment est-ce que vous pensez que notre société va évoluer par rapport à ce rapport au corps et ce corps mort ?
Alors sur le corps, il y a deux choses qu'il faut prendre en considération, surtout quand on parle du dernier corps, mais effectivement, le cas d'adultère est symptomatique. Il y a dans notre société un vrai surinvestissement à l'égard du corps. C'est-à-dire que finalement, quand il ne reste plus rien, il reste encore le corps. Et que donc, le corps, quand on ne croit plus à la vérité, quand on ne pense plus que effectivement les gens sont jugés sur ce qu'ils sont, mais sur l'apparence qu'ils donnent, le corps devient cette surface plane, cette carte d'identité magnifique qui nous permet de donner l'illusion d'être plus beau, plus magnifique, plus jeune, plus éternellement
plus.
Jeune.
Voilà, plus, on est dans les superlatifs, là.
Oui, absolument. Donc,
on n'est plus dans le réel.
Donc le corps est devenu de plus en plus une forme de visibilité valorisée dans le cadre d'une apparence qui tient lieu d'identité personnelle. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est extrêmement symptomatique et qu'on a du mal, quand on réfléchit sur ces questions de mort, à réconcilier, c'est que d'autre part, ce corps qui est tellement important, à partir du moment où il perd la vie, où il n'est plus vivant, finalement, n'a plus de valeur. N'est plus rien. Et donc, l'idée que l'on puisse, ce qui surprend absolument tout le monde, qu'on puisse, à hauteur de 35% en France, qui est une chose inédite, inouïe, qui n'existait pas il y a encore, disons, 15 ans, passer par la crémation, donc faire disparaître le corps, est quelque chose qui est, à proprement parler, étonnant, surprenant, parce que nous sommes dans une tradition...
Mais symptomatique,
parce que nous sommes dans une tradition qui a toujours valorisé le corps. On parlait de religion et de tradition religieuse. Nous sommes bien dans un pays de tradition chrétienne. Et le christianisme a comme particularité par rapport à toutes les autres religions, du moins les deux autres religions monothéistes, d'être une religion de l'incarnation, du corps ressuscité, de l'église-corps, de l'eucharistie, etc. Bref, que le corps est au centre de la religion. Et que donc, on a cultivé pendant des années les reliques, la visibilité du corps.
Le recueillement devant les tombes.
La représentation même du corps de Jésus, qui paraît, qui paraît inouï, si ce n'est même blasphématoire pour les autres religions. Mmh. Bref, donc tout cela, voilà. Et tout cela est perturbé par cette apparition nouvelle d'un phénomène majeur, qui est cette montée inexorable, je ne sais pas, mais enfin forte, de la crémation dans nos pays religieux, fait qu'à un moment donné, ce corps-là, d'une certaine façon, nous n'en avons plus l'usage. Et à partir du moment où nous n'avons plus l'usage, il n'a plus de valeur. Et s'il n'a plus de valeur, à ce moment-là, mieux vaut
le faire totalement disparaître,
parce que de toute façon, il ne sert plus.
Et vous, votre message, c'est stop, arrêtez tout ça?
Non, c'est pas ça. Moi, mon message, si vous voulez, c'est message idéal, oui. il est double ou triple. Le premier, c'est il faut y réfléchir. Oui. Le deuxième, c'est que ça s'accompagne en même temps d'une déritualisation massive. Je dis toujours qu'il faut comparer la crémation en France à la crémation au Japon. Au Japon, où il y a 98% de crémation, vous avez une ritualité qui est absolument magnifique, extrêmement forte, un culte des morts qui est extrêmement fort, etc., etc. Bref, donc, de réfléchir en deuxième lieu sur cette montée conjointe d'une part de la crémation et d'autre part de la déritualisation massive. Et troisième chose, si c'est ça mon message, c'est de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les Français choisissent la crémation. Quand on leur demande, ils vous disent à 60% qu'ils choisissent la crémation pour, je les cite, ne pas peser sur les survivants d'une part, donc parce qu'ils se considèrent comme de trop, et ne pas peser non plus sur la nature, considérant qu'ils pourraient ou qu'ils peuvent, avec leur corps en putréfaction,
être un poids.
La polluer. Donc on revient à cette problématique qu'on avait dit au début avec Hannah Arendt, c'est-à-dire que d'une certaine façon, le monde qui doit être commun s'il existe, oui, entre ceux qui nous ont légué le monde, entre ceux qui existent aujourd'hui et qui l'entretiennent, et ceux qui en hériteront, ce monde-là est en train de se disloquer.
Oui, c'est ça.
Et que donc, les Français considèrent que d'une certaine façon, ils sont déjà par avance en trop dans un monde, celui de leurs enfants, qui ne sera pas le leur.
La dislocation, Cécilia Duterre, votre réaction par rapport à tout ça?
J'écoute, c'est vrai que le corps est très surinvesti. Moi, je l'écoute et ça m'intéresse, ce paradoxe. Vous êtes très intéressant, effectivement, ce paradoxe qu'après la mort, effectivement, le corps n'a plus aucune cette enveloppe. Donc, on a tellement surinvesti, n'a plus aucun intérêt. Mais sur le plan, alors justement, moi, je le ramène à toujours ma thématique sur le plan amoureux. Il est vrai que le corps aussi, à notre époque, et la relation charnelle est très surinvestie aussi. Mais je dirais également qu'elle est peut-être très sous-investie aussi par notre religion, je parle la religion chrétienne, souvent le sous-investi, le désinvesti, ou l'a été, peut-être, oui, c'est peut-être un peu moins vrai à notre époque, c'est vrai. Mais vous voyez, un sujet comme mon roman peut avoir posé éventuellement un petit problème. Et or, je pense qu'il y a, vous parlez de réconciliation, mais je pense aussi qu'il y a une réconciliation à notre regard de croyants devrait être beaucoup plus bienveillant finalement vis-à-vis des deux aspects qui nous composent, c'est-à-dire l'aspect spirituel qui est très important, l'aspect transcendant, exactement, mais qui n'est pas exempt, je dirais, d'une spiritualité du désir. C'est exactement sur ce sujet en fait que j'écris aussi sous forme d'essai.
Damien Huguet.
Moi je suis pas complètement d'accord avec ça. Je renvoie.
Je voudrais juste je pense vraiment, véritablement, de mon point de vue de croyante, et d'écrivaine croyante, que le charnel peut parfaitement nourrir le spirituel et le spirituel le charnel. Pour moi, c'est un cercle vertueux, véritablement vertueux, bien entendu, dans une relation. Alors là, on parlait de l'adultère, moi je parlais dans une relation durable, de construction, bien entendu. Mais pour moi, ce ne sont pas deux aspects qui sont scindés. La personne humaine a deux deux, voilà, ce sont deux versants qui se nourrissent l'un de l'autre.
En quoi Damien Legay, vous n'êtes pas d'accord avec...
Je trouve qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est que le puritanisme est une chose, mais est-ce que le puritanisme appartient à la tradition chrétienne? J'en suis pas absolument certain.
C'est une incompréhension. Donc,
ça s'est rajouté. Ça s'est rajouté, d'une part. Deuxièmement, je renvoie au livre de mon ami Fabrice Adjadj sur la question effectivement du corps et de l'amour valorisé dans
la profondeur des sexes
dans la tradition dans la tradition chrétienne. Il suffit de lire le Cantique des Cantiques, qui est quand même de ce point de vue-là une apologie et du désir et du corps et de la relation amoureuse, et que l'on peut voir à la fois au premier degré parce que c'est une relation amoureuse, et à la fois comme le verra par la suite Saint Bernard, dans une relation effectivement amoureuse vis-à-vis. Donc il y a bien une valorisation du désir et une valorisation du corps. Et puis quand on dit effectivement que le charnel est spirituel, le spirituel charnel, c'est textuellement dans Peggy par exemple.
Bien sûr,
voilà.
Bien sûr.
Donc cette idée que le spirituel est charnel et que le charnel est spirituel, d'une certaine façon c'est le propre même de cette opération compliquée, magique et incompréhensible qui s'est opérée au début du christianisme, qui laissait à supposer qu'on est sorti de ce dualisme grec fallacieux entre l'âme tombée dans une prison qui était le corps, et donc cette valorisation du corps faite par le christianisme, et parce que le Christ est un corps, est devenu corps, s'est incarné dans une chair, dans un corps, et que donc le corps, la chair, est au cœur.
C'est, je crois que vous êtes d'accord.
Dit Tertullien, le corps. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a un rapport conflictuel
avec le christianisme.
Avec le christianisme, c'est ça mon point. C'est qu'il y a du puritanisme qui est une chose, qui vient de Victoria, qui vient d'une relation, d'une morale bourgeoise, qui vient de ce que vous voulez, mais qui n'est pas propre au christianisme. Voilà. Et que donc, il me semble que là, il y a quelque chose qu'il importe de reprendre en considération, parce que le corps, c'est bien, comme le dit Tertullien, la charnière du salut.
Damien Legay, la mort en cendres, la crémation aujourd'hui, que faut-il en penser? Cécilia Duterre, membre de l'association des écrivains croyants, Savannah Dream, un roman paru chez Albin Michel. Vous êtes tous demain dans le 6e arrondissement, à la mairie de Saint-Sulpice. Voilà, place Saint-Sulpice, on va y arriver.
Mission. Bonjour, c'est Faustine Fayette. Retrouvez-moi tous les samedis matins à partir de 10h dans l'émission Mission pour découvrir les initiatives des jeunes chrétiens, des étudiants et jeunes pros en Ile-de-France.
Mission avec Faustine Fayette, tous les samedis à 10h05 sur Radio Notre-Dame.
Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers? Hop là, en voilà un, et puis un autre.
Ne laissez plus s'envoler votre argent.
Et puis un autre.
Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
Appelez vite au 01 42 11 03 03, 42 11 03 03.
Chaque lundi, à 7h15, 10h03 et 18h27, retrouvez le coup de cœur littéraire de Grégory Solari sur Radio Notre-Dame.
Radio Notre-Dame.
Très belle fin de matinée à notre écoute, il est 10h57.
Les enfants du Mékong. Yves Maudre.
Projet d'un ministre, retirer les enfants le plus tôt possible de leur conditionnement familial et culturel. Cela a été le programme de toutes les dictatures, et notamment de celles qui concernent enfants du Mékong, celles des communistes et des communistes Khmer rouges. Arracher l'enfant à l'amour de ses parents, c'est le priver du fondement même de ce qui structure la personnalité d'un homme ou d'une femme. Tous les psychologues expliquent les blessures très profondes d'une enfance privée de l'amour de ses parents. Il y a dans cette terrifiante théorie un remake angoissant de ce que l'histoire récente a expérimenté. Enlever l'enfant de l'amour familial, c'est vouloir le programmer pour une société révolutionnaire pour faire un individu sans racines.